L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 255e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre en direct approximatif. Cette émission est enregistrée le jeudi 15 juin dans la soirée ensoleillée. Car nous ne sommes pas disponibles. Moi-même, je suis en déplacement à l'hôtel. Pierre est bien chez lui, mais en tout cas, on n'est pas dispo dimanche. Donc, on va vous présenter l'actualité des deux semaines écoulées avec...
Des deux semaines presque écoulées.
Bon, voilà, des deux semaines presque écoulées, c'est plutôt l'actualité des 10 jours écoulés. Et on va commencer, je dirais presque comme par tradition, avec des nouvelles sécurité et vie privée, avec, comme dirait Pierre, des petites puputeries du Sénat. Le Sénat, donc, dominé essentiellement par la droite, ce qu'on appelle le centre-droit, la droite en réalité, a donc adopté une proposition de loi pour expérimenter la reconnaissance faciale dans l'espace public, profitant ainsi des textes de loi qui émergent à propos de la sécurisation pour les JO de 2024. Alors, cette proposition de loi analyse la quadrature qui a remonté l'information à peu de chances d'être adoptée, dans la mesure où elle ne vient pas du gouvernement et ça vient donc du Sénat où le gouvernement n'a pas la majorité, comme à l'Assemblée nationale en fait, mais avec encore moins de majorité. Donc c'est quand même en revanche un signe assez inquiétant, c'est que les républicains peuvent toujours arriver au pouvoir, ne serait-ce qu'en coalition, on ne sait pas avec qui. Donc ils habituent quand même le Parlement à analyser ce genre de texte. Donc parmi les promoteurs de cette proposition de loi, on retrouve un ennemi des libertés publiques qui est Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord, ancien candidat à la mairie de Lille, bon, qui s'est pris une rouste. Mais tout de même, il garde un pouvoir de nuisance au Sénat. Autre nouvelle du Sénat, Pierre, est le Sénat qui valide donc le déclenchement à distance des micros et des caméras dans le cadre d'une enquête. On en avait, il me semble, parlé lors d'une émission précédente. C'était une volonté du gouvernement. Donc, en théorie, uniquement pour les affaires de terrorisme et de criminalité organisée. Mais
en pratique, voilà, laissons-leur quelques années et ce sera pour l'éco-terrorisme, pour avoir dit que Darmanin est une personne pas très gentille ou ce genre de choses. Voilà, c'est...
Donc à toujours retenir l'exemple du fichage des empreintes génétiques, qui au départ était réservé aux crimes les plus graves, notamment aux affaires de viol. Je dirais que ça a été l'exemple qu'on donne le plus fréquemment pour le justifier, c'est que la première affaire à avoir été résolue, c'est l'affaire du tueur de l'Est parisien, donc Guy Georges. Donc effectivement, c'est ces traces ADN qui ont permis de le retrouver, et depuis ça a été étendu jusqu'à ficher des faucheurs d'OGM ou même ficher en fait des gens qui ont simplement été soupçonnés sans avoir été condamnés. Donc vous avez des innocents dont les empreintes ADN sont fichées.
On sait jamais, des fois qu'ils recommencent à être innocents.
Exactement.
La récidive d'innocence est un grave crime quand même.
Je dirais même que l'innocence c'est quand même un petit peu suspect.
C'est vrai.
Alors maintenant, on ne va pas parler politique, mais justice. Alors c'est dans le cadre donc de l'affaire du 8 décembre, donc une affaire alors de terrorisme. On parlera pas du fond de l'affaire. C'est quand même assez complexe. Je dirais que bon, il y a quand même certains éléments qui laissent à penser que c'était pas forcément de gentils garçons. Mais néanmoins, ce qui est grave, c'est que, alors, on sait que le parquet utilise les arguments qui sont à leur disposition pour pouvoir, je dirais, convaincre de la dangerosité des accusés, ou en tout cas leur culpabilité. Et là, ils n'ont pas hésité. Donc, le parquet et également la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, ainsi que le juge d'instruction dans ses procès-verbaux, puisque la quadrature du net a donc eu vent de procès-verbaux d'audition et également des réquisitoires du parquet national antiterroriste. Et donc, on apprend que l'utilisation de Signal ou de WhatsApp, de Wire, de Silence ou de ProtonMail, mais surtout Signal et WhatsApp sont quand même, notamment pour WhatsApp, très utile du grand public, c'est quand même suspect. Vous voulez chiffrer vos communications. Alors, on les chiffrait dans les procès-verbaux et les comptes rendus qu'on a. On emploie souvent le terme crypté. Donc, c'est suspect. L'utilisation d'applications comme Signal, WhatsApp, Wire, Silence ou ProtonMail pour chiffrer ses communications. Le retour à des outils permettant de protéger sa vie privée sur Internet, comme VPN, Twitter ou Tez, hein, je cite donc le texte de la quadrature du net, le fait de vouloir utiliser des outils libérés des GAFAM ou tout simplement, par exemple, utiliser FDroid, hein, FDroid qui est un magasin d'applications alternatives sur les systèmes Android. Donc, si vous avez, utilisable même si vous n'avez pas mis un firmware, enfin, pas libre, mais en tout cas une version épurée d'Android, chiffrer son disque dur. Ou tout simplement utiliser les bonnes pratiques. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que beaucoup de ces bonnes pratiques sont recommandées par l'ANSSI, hein, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, dans les questions qui ont été posées lors des interrogatoires, êtes-vous anti-GAFA? Est-ce que vous pensez que les GAFA font des mauvaises choses? Ou est-ce que vous éprouvez des réserves vis-à-vis des technologies de communication? Mon agent de la DSI, la DGSI par exemple, a écrit quand même que Tor permet de se connecter à Internet et d'utiliser des outils réputés de chiffrement de communication des données. Toutes les données sont stockées dans la mémoire RAM de l'ordinateur et sont donc supprimées avec l'action de la machine, avec une jolie confusion avec Tails.
Oui, tout à fait.
La DGSI qui demande également en garde à vue les identifiants et les mots de passe pour Tor. Donc en plus, non seulement on a une criminalisation des outils de protection de la vie privée, mais en plus une belle incompétence technique.
Ouais, il y a tout ce qu'il faut.
Donc, la juge d'instruction a également reproché donc aux mises en cause d'avoir installé un système d'exploitation Linux avec un système de chiffrement. Bon, en gros, après, mais... ils ont sur oui lorsqu'ils ont installé Ubuntu.
Mais juste une chose,
est-ce que c'est si vous voulez chiffrer le disque dur.
Est-ce que c'est criminel d'avoir un Windows avec un disque dur chiffré? Parce que ça, c'est par défaut sur pas mal de machines, ça.
Mais c'est visiblement ce qu'a oublié ou enfin de pas comprendre. Alors, peut-être qu'au final, ils sont eux-mêmes pas dupes, mais le fait que pour charger la barque et pour apporter du crédit aux accusations envers les mises en cause, on utilise ce genre d'argument. Et ça, c'est très grave. D'ailleurs, l'utilisation de Signal, qui est dénoncée comme étant signe de complotisme, de vouloir cacher des choses, c'est quand même recommandé par la Commission européenne, par son personnel.
Oui.
L'ANSSI et la CNIL recommandent de chiffrer le support numérique. C'est même une politique gouvernementale, une politique de la part des agences gouvernementales pour la sécurité qui pousse à ça. Donc, si. Non seulement c'est dramatique pour la vie privée, mais également pour la protection de l'État français, des entreprises françaises, de vouloir décrédibiliser ainsi les techniques de chiffrement.
C'est même, je trouve que t'es pas assez fort dans les mots encore en disant de les décrédibiliser, puisque là c'est les criminaliser.
Alors, ils ne criminalisent pas, puisqu'ils ne sont pas accusés de... Ils sont accusés de terrorisme, ils ne sont pas accusés...
Oui, mais...
Des outils de chiffrement.
Enfin, ces outils-là sont utilisés comme étant des facteurs aggravants. C'est utilisé à charge, tu l'as dit.
Aggravant, c'est des preuves. Attention, il ne faut pas se méprendre sur les termes. Ils ne vont pas être accusés... Enfin, ils vont pas être, s'ils sont condamnés, ils ne vont pas être condamnés pour avoir chiffré leur disque dur et d'utiliser Linux et d'avoir utilisé Signal. Ils seront condamnés pour... terrorisme peut-être, et avec pour convaincre les juges l'argument que ils utilisent des techniques de chiffrement, des techniques de protection de la vie privée.
Si vous avez rien à vous cacher, pourquoi vous cacheriez des choses?
Ça, c'est l'argument habituel de ceux qui en veulent à notre vie privée. Je propose
Exactement.
Qu'après ces très réjouissantes nouvelles, nous passions un premier morceau de musique. Nous allons écouter Felony Sambone. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com.
But I'll reply with nothing. Oh, I'm carried away in your roller coaster eyes. And I try to pay attention, but I'm lost in your complexion. I get distracted by your face. I don't wanna leave this place. It'd be a felony if this ever had to end.
C'était Sam Brown, Felony. Vous écoutez les Codes Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. C'est la deuxième partie des actualités. Et Pierre avait encore d'autres nouvelles concernant la vie privée. Et m'a-t-il prévenu, cette nouvelle fait froid dans le dos.
Ouais, on va commencer par du lourd, du coup. On va se jeter dans le bain tout de suite, ça va être sympathique. On va aller aux États-Unis. Les États-Unis qui sont toujours la patrie de l'innovation, surtout dans le domaine de la vie privée. Et on va parler d'une petite affaire judiciaire là-bas où, j'avoue, je ne pensais pas que c'était possible d'être aussi innovant. Donc, un homme a été condamné pour... pour possession de matériel pédopornographique. Voilà, il a été condamné. Il me semble il proclamait son innocence, par contre. Il a été libéré sous caution. Mais, à sa libération, la justice a demandé à installer une application non seulement sur son téléphone portable, mais aussi sur le téléphone portable de tous les membres de sa famille.
Oui, c'est bon. Ouais. On veut le surveiller, on va dire. Bon.
Ouais, mais déjà, si tu fais...
Sur le mec, on peut débattre. C'est quand même quelque chose qui fait beaucoup de dégâts que la pédopornographie. Donc, on va dire que c'est défendable. Mais effectivement, sur des innocents, des membres de sa famille, c'est absolument inacceptable.
Mais voyons, quelle âme innocente tu as ? S'il sait que son téléphone portable est espionné, évidemment, il va juste prendre le téléphone portable d'un autre. Ces gens-là sont malades, de toute façon. Ils vont toujours vouloir recommencer, hein, même, surtout quand ils clament leur innocence. C'est vraiment les plus malades, ceux-là. Bref. Donc, ils ont installé une application de surveillance sur l'ensemble des téléphones portables de toute la famille. Avec, bon, déjà, il y a eu les conséquences psychologiques pour l'ensemble des membres de la famille, puisque l'application, c'est pas... La petite surveillance, l'application, elle prend régulièrement, très régulièrement, plusieurs fois par heure, des captures d'écran pour les envoyer à une entité de contrôle. Ça enregistre l'historique des navigations Internet, les sites consultés, etc., etc. Et toutes les communications réalisées par les applications du téléphone avec l'extérieur.
On dirait un petit peu l'espèce de principe de droit romain, quoi. Tu es, c'est toute la famille qui est responsable et qui doit subir les conséquences.
Et alors, c'est pas tout.
Alors, est-ce que c'est un tribunal d'un État, hein, qui a prononcé cette peine.
C'est pas le seul État à faire ça.
Je serais quand même curieux de savoir ce qu'en pense la Cour suprême.
On verra quand ça ira au niveau de la Cour suprême. Et le pire, c'est la fin de l'histoire. Donc, la femme de l'homme en question a reçu un appel de son avocat pour indiquer que il y avait un mandat d'arrêt contre son mari parce que son mari n'aurait pas respecté les conditions et en fait aurait consulté un site pornographique sur le téléphone de sa femme. Et en fait, c'est là où ça devient vraiment ridicule. L'application en question a signalé effectivement qu'une application s'est connectée sur le site de je sais pas quel site pornographique, je n'ai pas retenu le nom. Et sauf que en fait le site avait déjà été visité à plusieurs reprises sur le téléphone auparavant. Soit. Sauf que une fois qu'on a fait ça, le navigateur web utilisé, a priori un Chrome, il a tendance à se connecter tout seul au site pour rafraîchir tout seul la vignette dans les sites fréquemment visités, ce genre de choses. Hors interaction de l'utilisateur. Et donc, la personne va se faire arrêter, enfin, sa probation, en anglais, il y a le terme de probation, je ne sais plus comment c'est traduit, sa probation va être arrêtée, juste
oui,
parce que
sa mise à l'épreuve, on va dire.
Voilà, sa mise à l'épreuve va être arrêtée parce que...
La libération conditionnelle.
Voilà, ça va être arrêté juste parce que le téléphone s'est automatiquement connecté à un site pornographique sans interaction avec l'utilisateur.
Bon, là, c'est un... Bon, admettons qu'il soit coupable. Bon, c'est ce qu'a déclaré le tribunal. Bon, on a quand même du mal à pleurer sur son sort, à avoir de la sympathie. Mais ça peut être utilisé pour des délits beaucoup moins graves.
Ben oui, puis même.
On commence toujours par le terrorisme et la peine.
Puis toute sa famille.
Justifier les entorses à la vie, au respect de la vie privée.
Et même là, c'est. Imaginons qu'il ait été, qu'il soit réellement coupable. Je vois pas ce qui. Si on considère que ça va être un multi, il va toujours récidiver. De toute façon, ces gens-là sont incurables. Ben enfin, parce que c'est la logique finalement d'un tel espionnage. C'est dire,
en France, on a le FIJS, hein. Le fichier, des délinquants sexuels où ils doivent pointer régulièrement.
Mais ça me désespère.
Bon, parlons logiciel libre désormais. Oui, la transition est peut-être un petit peu abrupte. On va parler de Debian, quelque chose qu'on aime quand même beaucoup plus, qui va donc sortir sa version 12. Qui est sorti le 10 juin. Son petit nom, c'est Bookworm. Est-ce que ça a une référence à Toy Story?
Toujours, t'inquiète pas, ils en ont encore pour quelques années.
Je ne suis pas un fan inconditionnel de Tom Story, alors...
C'est dans Toy Story 3, celui-là.
D'accord, ok. Moi, j'ai regardé le 1 quand j'étais un petit peu plus jeune. Et donc, Debian qui s'articule autour d'un contrat social qui lie donc ses contributeurs. Ce contrat social a été amendé pour autoriser, contrairement à la politique précédente, l'installation de firmware non libre pour faire fonctionner le matériel qui ne peut pas fonctionner sans ça. Alors, c'est un choix pragmatique. C'est vrai que je pense qu'il vaut mieux un système d'exploitation utilisé, même si on est obligé de faire quelques entorses. Bon, ça plaira pas à Stallman. Bon, déjà que Richard Stallman, Debian, à la base, ça lui plaisait pas trop. Mais bon, voilà, ça montre une fois de plus, je dirais, le difficile équilibre entre le respect du logiciel libre et certains pragmatismes, mais qui, on va dire, a quand même effectivement tendance à faire en sorte qu'on accède de plus en plus de bouts de code privateurs dans nos environnements.
Après, pour la défense du côté libre, c'est l'argument qui a été retenu, c'est que c'est du code qui ne tourne pas sur la machine, sur le processeur de la machine lui-même, c'est du code qui tourne sur les cartes d'extension de l'ordinateur, c'est le code d'une carte Wi-Fi, c'est le code qui tourne sur une carte réseau ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que ça a été toléré de faire ça comme ça. C'est pour ça qu'ils ont toléré cette entorse au règlement.
Oui, l'argument est assez osé, mais on va dire que c'est justification suffisante.
Voilà, et ça peut, si tu veux comment dire, tu peux argumenter autour de ça, mais ça revient de questionner la définition d'ordinateur. Quel est l'ordinateur, quel est le système sur lequel tu travailles? Ça vient des sujets techniques intéressants et un peu compliqués. Ça peut devenir rigolo.
Parlons d'Apple. Alors, on va parler d'Apple dans la rubrique libre.
C'est un peu surprenant. Ce qui n'est pas courant.
Ce qui n'est pas courant, on est d'accord. Hein. Mais parce que Apple va donc présenter son toolkit de portage de jeux vidéo sur leur système macOS. Mais qu'est-ce que ce toolkit? En fait, c'est Wine.
Exactement. Donc, Apple a mis en avant pendant une conférence. Alors, par contre, à aucun moment, a priori, ils n'ont dit que c'était basé sur un logiciel libre qui s'appelait Wine. Hein, à aucun moment, ils ont dit que merci Valve, merci Steam d'avoir fait énormément de développement autour de tout ça ces dernières années. Ça, ils ne l'ont pas dit. En gros, ils ont acheté ça auprès de... j'ai un trou de mémoire. Auprès de Crossover, je crois, si je n'écorche pas trop le nom. Crossovers, qui s'occupe de fournir un service de développement commercial autour de Wine pour les entreprises, par exemple, qui souhaitent faire une migration vers Linux ou macOS, mais sont dépendantes d'applications Windows spécifiques.
Ils ont même donc financé l'activité d'une entreprise du libre.
Bah, du coup, oui. Et ça fait bizarre. Hein.
Pour une fois, on a quand même du bien à dire d'Apple. C'est pas courant. Donc,
mais ça arrive.
Les nouvelles très réjouissantes qu'on vous a présentées, on peut au moins marquer le coup.
C'est ça.
Ça y est, j'ai marqué.
Mais voilà, donc le truc à retenir surtout, c'est que ça va faire plus d'utilisateurs de Wine. Et s'ils passent par les prestataires habituels autour de Wine, parce qu'ils travaillent déjà avec Valve, hein, ceux qui ont été appelés là pour cette solution, s'ils passent par les prestataires habituels, on peut supposer que ça va être reversé au projet Wine derrière. Alors tout ne sera pas réutilisable et commun avec le monde de Linux, parce qu'il y a une partie qui va être spécifique au système Apple, mais ça devrait pouvoir quand même bénéficier à tout le monde.
Pierre, les cartes ATI 300 ont encore des mises à jour de pilote libre. Alors je suis allé vérifier quand elles sont sorties, c'était quand même en 2002, il y a 20 ans.
Exactement, et c'est juste pour ça que je voulais en parler, parce que les mises à jour de pilote libre, honnêtement, ça intéresse pas le commun des mortels, ça intéresse pas grand monde, même moi honnêtement, le fait qu'il ait mis à jour, pour citer un grand philosophe, ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que voilà, ce sont des cartes qui datent d'il y a 20 ans, et comme la documentation a été fournie comme le pilote est entièrement libre, eh bien, aujourd'hui encore, on a des gens qui peuvent les maintenir et les mettre à jour pour corriger des bugs ou améliorer des choses.
Alors, c'est pas... Une carte graphique et une voix pierre qui date d'il y a 20 ans intéresse encore des gens et qui a encore des mainteneurs. Quand on sait que des fois, on a du mal à trouver des mainteneurs pour des pilotes ou des projets libres, c'est assez surprenant quand même, non?
Oui, mais c'est à la f... déjà pour le côté rétro gaming et pour la compatibilité avec du matériel. Ce genre de carte, si t'as une machine qui tourne très bien avec ça, pourquoi en changer? Les cartes plus modernes ont quand même l'inconvénient déjà d'être beaucoup plus grosses et gourmandes, parce qu'à l'époque, on
J'ai
faisait
pas
pas
dit
des
qu'il
tanks
n'était
comme
pas
maintenant.
pertinent, Pierre. Hein.
Oui, je sais. Mais justement, on tombe sur des passionnés du coup. Et les passionnés, ça a les moyens de sa passion, c'est-à-dire que ça a le temps requis pour faire ce genre de choses. Il y a un trou, il y a une période où bah, le matériel est trop récent pour intéresser des vieux fous et trop vieux pour intéresser les mainteneurs
C'est l'espèce de zone
habituels.
d'ombre entre vieux et vintage.
C'est ça.
Entre obsolète et vintage.
Exactement.
On retrouve des nouvelles diverses et variées après un second morceau de musique. Nous allons écouter Pierce Murphy, Icebox. Vous écoutez les Codes Ignous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Off the shelf, high on life itself. I got no serious qualms. These are the rosy days. Feel it up in your face. All of the pigment, come on. We got a lot to lose, counting the ones and twos. But I don't trifle no more. City gone with the flood. I'd rather fill my cup than try and swim for the shore. Oh, maybe say goodbye to living it down. Maybe say goodbye to living it down. Until my elbow go cold. William's a bastard son, but he knows when it come that he ain't breaking no mold. Keeping the icebox clean when the weather get wet in Maine is easier said than done. Baby, I'm temper bound, bone dry and strung out, trying to keep my shirt on. Maybe say goodbye to living it down. Maybe say goodbye to living it down. Goodbye.
said goodbye to living it up.
C'était Pierce Murphy, Icebox. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. Ça va être des brèves diverses et variées. Et YouTube, qui, il y a quelques années, avait supprimé beaucoup de chaînes qui faisaient de la désinformation concernant les élections aux États-Unis. Et YouTube a décidé de faire machine arrière, Pierre.
Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est bon.
Les fake news.
Les fake news.
Ça ne me dérange pas tant que ça fait du revenu publicitaire.
Voilà, c'est ça. C'est... Alors, il y a. Ils disent. Nous avons soigneusement réfléchi à ce changement. Voilà. Il faut se contenter de ça. Hein. Ils n'ont pas expliqué pourquoi. Et toutes les autres politiques de désinformation électorale restent en place. Y compris l'interdiction de contenu visant à induire les électeurs en erreur sur l'heure, le lieu, les moyens ou les conditions d'éligibilité pour voter, les fausses affirmations susceptibles de décourager matériellement d'aller voter, y compris celles qui contestent la validité du vote par correspondance, et les contenus qui encouragent d'autres personnes à interférer avec les processus démocratiques. Du coup, j'avoue, j'ai un peu du mal à voir.
Mais si vous le faites, il n'y a pas de sanction.
C'est ça, là, j'ai pas.
C'est le principe de c'est interdit, mais si vous le faites, eh ben il se passe
rien. C'est interdit, mais si c'était pour l'élection de 2020, ça passe. Enfin, je sais pas, je comprends vraiment pas la logique du changement, là. Je trouve ça un peu glaçant, j'avoue. Parce que, ben, du coup, qu'est-ce que ça va être déjà pour nos prochaines élections en France, et qu'est-ce que ça va donner en 2024 aux États-Unis, vu que les mêmes illuminés sont toujours présents.
Tu vois, parce que là, du coup, ce titre d'information, on aurait cru lire Twitter à la place.
Tout à fait. Tout à fait. Mais Twitter, ils l'ont déjà fait, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème.
Twitter est quand même bon dans la décrédibilisation. C'est que le badge bleu qui avant était un signe, on va dire, de notoriété, on va dire que c'était un signe de vérité. Mais au moins, si c'était une organisation, on voit qu'elle est à minimum pignon sur rue. Là, désormais, en fait, c'est limite un indicateur de fake news ou de quelqu'un qui veut donner de l'importance. À voir comment M. Musk est un génie des affaires. Aux États-Unis, toujours, le Bureau des brevets propose des nouvelles règles qui pourraient rendre encore plus difficile le retrait de brevets invalides. Et Dieu sait si, dans le domaine des brevets logiciels, il y a foule de brevets invalides.
Exactement. C'est parce que les patent trolls en ont marre que le processus. Alors, c'est bourré d'acronymes, c'est fantastique. Le processus de revue. Alors, inter partes.
Revu par les pairs,
merci. Ils en ont marre, les patent trolls, parce que ce processus-là, il est horrible. Ça tue leur brevet. Et du coup, ils n'ont pas arrêté de dire non, mais c'est nul. Et jusqu'à maintenant, la Cour suprême a dit que. Non, il n'y a pas de problème, c'est normal que l'Office des brevets contrôle les brevets qui ont été donnés pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et les patent trolls ont continué de se plaindre au Congrès. Et du coup, a priori, maintenant, ben, c'est le Bureau des brevets qui serait en train de voir pour limiter, tout simplement, qui a le droit de contester un brevet. On va commencer à briller. Voilà,
Donc les patent trolls pourront continuer à poursuivre des gens qui violent leur brevet bidon. Par contre, t'as pas le droit de te défendre. Enfin, t'as le droit de te défendre que si t'es attaqué.
C'est un peu l'idée, j'ai l'impression. Oui, c'est... En gros, des organisations comme l'EFF n'auront plus le droit. Voilà, ils n'auront plus le droit de s'opposer à ça. Ça veut dire aussi. Enfin, ils n'auront plus le droit de s'opposer aux brevets. Et du coup, ça veut dire que le monde du logiciel libre aura plus d'entité pour le défendre. Et là les conséquences peuvent être désastreuses. Parce que
l'EFF est quand même un efficace défenseur des libertés numériques, en particulier aux États-Unis.
Exactement. Parce que on peut s'attendre à ce que des gros, genre Google, Microsoft ou autres, qui peuvent avoir un intérêt dans la survie de certains logiciels libres, vont défendre éventuellement contre certains patent trolls, mais ça ne si on parle par exemple de d'environnement de bureau sous Linux, s'il y a un patent troll qui s'attaque à ça, il n'y aura personne pour défendre.
On continue avec Google et il y a un petit parfum d'antitrust. En tout cas, la Commission européenne voudrait forcer donc Alphabet, le groupe qui possède Google, la holding hein, qui a été créée par-dessus, donc à scinder ses activités donc d'édition de logiciels avec celles de technologies publicitaires. Alors, ce qui me paraît assez compliqué quand même concrètement, puisque c'est quand même la publicité en ligne qui rapporte 79%, il est marqué dans la nouvelle, 79% donc du chiffre d'affaires de Google.
Oui, mais c'est... Non. Justement, attention, c'est le piège d'interprétation dans lequel on peut tomber, ça, ce que tu viens de faire, Alexandre. C'est très pratique, du coup, je vais pouvoir expliquer.
La tech business accounting for 79% of total revenue last year.
Oui, mais c'est pas le cœur du... Enfin, c'est pas un problème, ça, en fait. C'est anecdotique, cet aspect-là. Parce que si demain, Google est scindé en plusieurs entités, il y aura l'entreprise de pub et les entreprises... YouTube, Google Mail et autres, pourront signer des contrats avec cette entité de publicité ou avec d'autres entités extérieures pour diffuser des publicités, que ce soit sur YouTube ou sur Google Mail ou la recherche en ligne, etc. Et donc, le chiffre d'affaires, la répartition, elle sera juste plus transparente. On saura que YouTube est bénéficiaire parce qu'ils touchent autant par la pub et ça leur coûte que autant à produire. Et si demain un concurrent arrive et a des meilleures offres publicitaires, Google pourrait en profiter. Alors ça j'en doute, il n'y aura pas de contrainte là-dessus non plus, mais ça veut dire aussi qu'il y aura certaines pratiques anticompétitives qui ne seront plus autorisées. Certains liens forts entre services ne pourront plus être admis. C'est surtout
Google
ça l'objectif.
Google pourrait continuer à scanner votre vie privée pour les publicitaires, mais du coup il le vendrait à une autre entreprise.
C'est ça.
Bon. Ça... C'est pas... mieux pour la vie privée.
Alors, je pense pas que ce sera mieux pour la vie privée, mais ça commencerait déjà à mettre un premier clou dans le cercueil des géants du net d'aujourd'hui, qui sont un vrai problème. C'est que Google a une force de frappe, et avec la publicité en ligne, ils ont une force qui est énorme, et ils ont trop de pouvoir. Il est temps de justement scinder ce pouvoir entre la recherche en ligne, la publicité en ligne, YouTube, Google Maps, etc., ils ont une force de frappe qui est immense. Il faut que Google soit scindé en plusieurs entités.
Bon, affaire à suivre, mais...
Moi, j'espère en tout cas. Hein. Moi, je dis chiche.
Oui, bon, à savoir que Google est quand même à la base une entreprise américaine.
Dans ce cas, qu'on interdise Google en Europe, voilà, moi, ça me suffit. Je suis une personne assez simple.
C'est vrai que tu aimes les solutions pragmatiques, Pierre.
Exactement.
Toujours Union européenne avec le sujet à la mode, la régulation de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que veut dire régulation ? Est-ce que c'est l'interdire pour certains usages ? C'est un peu flou quand même.
Exactement.
Ça ne pouvait rien dire, réguler.
Non, c'est. Ben non, mais c'est. C'est forcément.
Réguler l'intelligence artificielle.
Et donc, il y a eu des débats, il y a eu énormément de débats, de réflexions. Donc, il y a un premier brouillon qui est passé au Parlement européen pour restreindre les usages les plus risqués de l'intelligence artificielle. Et donc, grosso modo, les principaux avantages, c'est que ça limiterait l'utilisation de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est la reconnaissance faciale. Alors, mon radar personnel, il y a des gens genre Eric Ciotti qui adorent ce genre de technologie, donc mon radar personnel me dit « c'est une technologie à fuir ».
C'est quand même un principe qui a sa pertinence.
Voilà. Et donc, il y a aussi l'obligation pour des solutions comme ChatGPT d'indiquer quelles données ont été utilisées pour entraîner leur programme. Et ça, alors je l'ai déjà expliqué dans une émission où je réexpliquais le fonctionnement des intelligences artificielles, c'est la clé justement pour savoir quels vont être les biais que cette intelligence artificielle aura et quelles vont être les pires hallucinations qu'elle sera capable de produire. Donc, c'est un pas en avant indispensable. Alors, j'ai pas lu le texte en détail. De toute façon, le texte, c'est encore en c'est les premières étapes seulement. Je suppose que lorsqu'il passera sur les autres étapes du processus réglementaire européen, il va se faire briser les deux genoux. Mais si rien que cet aspect-là pouvait survivre, c'est vraiment quelque chose qui serait positif et ça nous met largement en avance par rapport à d'autres pays, genre les États-Unis, qui n'ont pas la moindre forme de réglementation et où c'est roue libre totale. Et justement, ça peut être extrêmement dangereux. L'intelligence artificielle, on n'a pas besoin d'un contrôle strict, on a besoin de savoir ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, on ne le sait pas.
Merci Pierre, c'était l'actualité des deux semaines écoulées. On retrouve tout de suite la dégicalisation après un troisième morceau de musique. Nous allons écouter Roman Koch, Crystals in Your Eyes. Vous écoutez Codec Nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Crystals in our eyes, making everyone blind. Gone so far, miss the star. Heard it all, I am outside now. Took a fall, I got lost somehow. Look into the skies, wishing I couldn't die. Star, am I far? Heard it all, I am outside now. Took a fall, I got lost somehow. Thank you.
C'était Roman Koch, Crystals in Your Eyes. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, au fait, c'est quoi Android ?
Tout à fait, parce que la question a gagné un bon cran en pertinence grâce à nos amis de Google. Donc, il est temps d'essayer de réexpliquer un petit peu ce qu'est Android, parce que Alexandre, à ton avis, qu'est-ce que Android pour toi ?
C'est un système d'exploitation pour téléphone mobile basé sur un noyau Linux modifié avec plein de couches propriétaires par-dessus et des applis fermées.
Est-ce qu'un système d'exploitation pour mobile qui n'a pas d'application pour passer des appels téléphoniques ou envoyer des SMS mérite d'être appelé système d'exploitation pour téléphone portable ?
Je vois là où vous voulez en venir.
Voilà, il y a un petit problème, comme qui dirait. Donc, on va parler d'Android, cette magnifique invention que j'adore. Un peu d'ironie, hein, je n'ai jamais utilisé de téléphone Android de ma vie. Donc, Android, comme l'a dit Alexandre, c'est le système mobile le plus utilisé au monde aujourd'hui, et c'est un dérivé de Linux. Android lui-même, et le cœur d'Android, jusqu'à maintenant, est développé. Alors, je ne peux pas dire logiciel libre, ça me fait vraiment mal à la bouche de dire qu'Android est un logiciel libre à la base. Android est un logiciel open source. Je fais la distinction parce que, clairement, c'est un logiciel qui est entièrement dans les mains d'une seule entreprise qui décide de tout sur le projet. Ce n'est pas un projet libre. Le code est libre, le projet ne l'est pas. La nuance est importante. Et Google a décidé, parce que jusqu'à maintenant, il y avait un cœur qui est AOSP, Android Open Source Project, qui était plus ou moins complet. On reviendra un petit peu après sur ce qui manque énormément là-dedans. Il y avait un cœur qui était plus ou moins complet. Et là, Google a dit, c'est bon, les applications pour passer des appels téléphoniques ou envoyer des SMS, on les supprime, parce que, bah, de toute façon, les distributeurs d'Android, que ce soit Google, Samsung, Sony ou d'autres, ben, ils mettent leurs propres surcouches, et donc ils mettent leurs propres applications pour passer des appels, pour envoyer des messages, etc.
Étrangement, ils n'ont pas le même argument pour le navigateur Internet, alors que...
Ah non, ça c'est pas la même chose.
Leur navigateur Internet.
Oui, mais non. Hein. Bon, je ne suis pas la poule aux œufs d'or, dis donc. Hein. Ouais. Donc, Android, déjà, qui était... pas complètement libre, on va reparler un peu après des conséquences aussi de la distribution même d'Android. Mais donc, le système libre sous-jacent, enfin le système open source sous-jacent, perd encore en valeur. Et je me pose la question pour les plus petits distributeurs, genre les Fairphone ou autres, qui, à ma connaissance, ne développent pas entièrement leur propre couche au-dessus d'Android, ben je ne sais pas quelle couche ils peuvent distribuer qui inclura ces applications-là. Je me pose vraiment la question et je ne connais pas assez le monde d'Android pour y répondre.
Est-ce qu'ils sont capables de développer eux-mêmes, du coup, ces
trucs ? Est-ce qu'ils sont capables ou est-ce qu'ils vont devoir l'acheter sur étagère auprès de quelqu'un d'autre ? Genre Google. Et on en vient à la dépendance d'Android à Google. Parce que jusqu'à maintenant, la partie que j'évoquais, AOSP, là, la partie Open Source Project, c'est un système d'exploitation qui n'est pas directement lié à Google. On peut installer n'importe quoi dessus, on fait ce qu'on veut. Mais il manque un élément majeur, si vous essayez d'utiliser un Android comme ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir installer beaucoup d'applications. Déjà parce qu'il va vous manquer le Google Play Store, le fabuleux centre d'achat d'applications de Google. Mais ce qui va vous manquer surtout, c'est les Google Play Services. Et là, on entre... Alors, on en a déjà parlé hein, dans cette émission, mais la piqûre de rappel est nécessaire, surtout vu ce que fait Google là. Les Play Services, c'est la solution qu'a trouvé Google pour résoudre deux problèmes en un coup. Ils avaient deux problèmes à régler. Ils avaient le problème que les applications dépendaient de versions d'Android qui étaient plus récentes que celles disponibles sur les téléphones, et du coup, les applications n'étaient pas compatibles avec assez de téléphones, et ça créait de la... et surtout du gaspillage, puisque ça pouvait inciter les gens à changer plus souvent de téléphone. Et du coup, plutôt que de dire, ben, on va imposer aux fabricants de mettre à jour le téléphone sur les dernières versions d'Android, et on va imposer d'avoir un vrai suivi des versions d'Android sur les téléphones, ils ont décidé de déplacer de plus en plus d'intelligence de briques réutilisables dans les Play Services, qui eux peuvent être mis à jour indépendamment du système Android. Et les Play Services, il s'agit de Google, ce sont des bienfaiteurs, donc c'est un logiciel entièrement propriétaire.
Propriétaire.
Gratuit, c'est gratuit puisque c'est vous le produit. Et donc, un téléphone Android, avant c'était déjà loin d'être libre, là clairement, ils ont franchi une nouvelle étape en disant c'est bon, on s'en fout, voilà, c'est pas un problème. Donc le code en question va être archivé, gardé pour référence et ça va être supprimé un moment dans le futur. C'est textuellement ce qu'ils ont annoncé. Donc, Android, un système libre, ben moi j'y croyais déjà pas, et là je pense qu'on commence vraiment à voir de beaux exemples de la part de Google, que non, Android n'est pas libre. Si vous voulez un système d'exploitation mobile libre sur vos téléphones portables, il en existe, il existe des vraies distributions complètes basées sur AOSP, il existe des systèmes alternatifs, mais... Votre téléphone Android acheté dans le commerce, non, ce n'est pas un système d'exploitation libre. Même si vous allez installer un F-Droid ou autre, vous allez juste pouvoir installer des applications libres en plus, mais la base reste de plus en plus fermée. Et à mon sens, ce qui compte le plus pour la vie privée sur un téléphone, c'est les fonctions d'appel téléphonique et de messagerie, et savoir que ces fonctions sont celles qui vont être garanties comme étant dans les couches propriétaires de chaque distribution, moi ça ne me rassurerait pas à la place d'utilisateur Android. Surtout quand je vois, alors pour finir sur une petite anecdote rigolote, j'ai eu à installer des téléphones Android le week-end dernier pour mes parents, et j'ai appris que Samsung avait une définition d'essentiel fort sympathique, puisque une application essentielle est installée avec le système, c'est les mots qu'ils emploient, il s'agit... de l'application Disney+. On n'a pas la même définition d'essentiel et on n'a vraiment pas la même notion de gaspillage de ressources, bande de...
Nous resterons...
Je crois que j'ai épuisé mon quota.
Le début de cette émission, Pierre.
J'ai épuisé mon quota.
À l'époque, signe des temps, parce que il fut une époque, c'était plutôt Facebook. Alors, en plus, les applications, hein, je suppose que c'est comme pour les autres... téléphone, hein, c'est qu'elle est éventuellement désactivable, mais pas désinstallable.
J'ai déjà eu assez mal avec ça, donc c'est bon.
Merci Pierre.
J'ai délimité la souffrance.
Pour cette dégeekalisation et cette mise au point fort salutaire. C'était donc le 255e numéro de l'Écho des Gnous. Si vous nous écoutez le dimanche soir, le 18 juin, nous ne sommes pas en direct. Nous avons enregistré l'émission le jeudi 15 juin. On se retrouve normalement en direct dimanche 2 juillet à 19h jusqu'à 20h sur Radio Campus, comme un dimanche sur deux. Et ce sera la dernière émission de la saison. On prendra des vacances bien méritées. Et éventuellement, on fera quelques rediffusions de l'été. Mais on vous tiendra au courant d'ici là. Dans une semaine, vous avez rendez-vous avec le jazz. Et tout de suite, pour ceux qui écoutent en direct sur Radio Campus, vous retrouvez Chupa Pimento. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fin de week-end à vous. Au revoir Pierre.
Au revoir, bye bye.
You got me lost in your eyes. I truly think you're the prize, and I can't believe I found you. I think I'm in love. Let's run away and be together. I never miss the one who swept me on my feet. Looking back, I think it's funny how it came to be. I truly cherish all the memories we made in 3D.
everybody begging you to say that you want me. Our situation's kinda complex, and that's what makes it the best. I want you more than the rest, and I will treat you how you deserve. You be the queen of my world, I'll be the one to lift you up whenever you be feeling down.
Get me out of my head, yeah. I don't wanna think about a dead end. I'm so scared of
that we got when we are so connected. Got me in my head, I can barely sleep. Why is life so cruel to me? I just wanna take you to a dinner on a date with me. Show you how to live, take you somewhere special, somewhere that you never been. Maybe to the islands, driving in that SUV, singing in the car, nightlife, karaoke in the club. For the first time you got me feeling buzzed. I'm feeling something different, like a new beginning starting right in front of me. I kinda like it, I'm feeling risky. Wanna risk it all and truly fall, praying out to God that I can have it all with you.
Get me out of my head, I don't wanna think about a dead end. I'm so scared of your feelings fading.
Start making up for